Bonjour, bienvenue, c'est la bande originale de votre été jusqu'à midi avec Leila Kadoboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Nora Hamzaoui. Au programme ce matin, Maïtena Birabin, la bande originale de Mathilde Seigné, Franck Dubosc et en live, Camille, le meilleur de la bande originale. C'est maintenant.
Bonjour.
Pour ceux qui se posent encore la question, Birabin, ça se prononce comme Agen, on dit pas Agen.
Agen.
On dit... Donc pas Biraben, mais Birabin.
On dit Saint-Gobain. Asparin.
Saint-Gobain.
Non, pas du tout, Asparin. Mais par contre, on dit Pont-Aven.
Ah, voilà. Ça y est, vous m'avez embrouillé. Vous m'avez complètement embrouillé.
Ça dépend de la région.
Bienvenue, exactement. Maïtena. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. On va parler de légumes. Non, mais de légumes.
J'ai envie de lui donner le livre.
J'ai commencé par dire crudité et non.
Non.
Et pas végétarien non plus, parce qu'il y a quelques recettes avec quand même du jambon, de la viande ou du poisson. Ouais. Des crustacés. Bref, on va parler de ce livre de recettes de Maïtena Birabin avec Pierre Etchemaïté qui est un chef basque. Mais d'abord, je voudrais être sûr que Tom Villa a bien compris pourquoi. Vu la tête, j'ai un peu peur. Pourquoi Maïtena est là?
Parce qu'elle sort un livre de cuisine.
Ah,
c'est bon,
voilà.
J'ai bon.
Okay.
Donc voici la couverture qui correspond à une photo prise fin juin 2016. Regardez tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule à cause du grand journal. Des tomates, des choux, il y a même une petite carotte, regardez.
Hein, regarde le sourire.
On a bien fait de faire un livre de cuisine. En revanche, ce livre s'appelle Les légumes, ils vont vous surprendre. Voilà, alors ça c'est marrant, et si je dois penser à un truc surprenant à manger, un hamster, oui, des légumes. Voilà, quelle idée. En plus, quelle idée de vouloir nous faire manger des légumes. Pourquoi pas des fruits pendant que vous y êtes. La dernière fois que j'ai mangé 5 fruits et légumes dans une journée, c'était en mangeant une tomate cerise en buvant un verre de sangria. Non, c'est con.
Ben c'est bien, ça le fait. 1, 2, 3, 4, 5.
On y est, ils y sont tous. Non, mais c'est vrai, quand Nagui m'a dit que vous veniez pour un livre de recettes, je me suis dit, bah, cool, elle est originaire du sud-ouest. Faites péter les confits de canard, les magrets de canard, le foie gras de canard. Bref, envoyez-moi le troupeau de canard qu'on se pète le bide. Et là, quoi? Tuant d'aubergine, tatin d'endive. Non mais je vous adore, Maïtena, mais sauf que vous essayez quand même de nous fourguer de la purée de panais.
Oui, c'est bon. Hein.
Vous savez ce que c'est, un panais ou pas?
Bon. Ouais, c'est ce que c'est un panais.
Un panais, c'est une sorte de, on dirait une carotte qui a eu une gastro. Elle est blanche comme un cul, on dirait Morin quand il va au Cap d'Agde. Pour ceux qui connaissent pas le panais, c'est comme le topinambour, la rutabaga, c'est ce qu'on appelle des légumes oubliés.
Ouais, voilà. Exactement.
Et s'ils étaient oubliés, c'est qu'il y avait sûrement une bonne raison.
Il y en a une. La bonne raison, c'est que nos parents et grands-parents n'ont tellement manger pendant la guerre, et avec ça,
ils sont passés
à autre chose. Plus, ouais, c'était impossible. On n'en pouvait plus, mais nous, on n'a pas connu.
Non, mais moi, je veux bien croire que c'est bon pour la santé. Mais vous savez quoi? Je vous la laisse, la bonne santé. Moi, c'est vrai que moi, j'ai une alimentation d'enfant. Mon plat préféré, c'est la tartiflette. Mon fromage préféré, c'est la vache qui rit. Mon légume préféré, c'est la pomme de terre. Alors, celui qui va me dire, c'est pas un légume, c'est un tubercule, je lui pète les dents. Oui. C'est comme le relou qui te dit, la tomate, c'est pas un légume, c'est un fruit.
Mais c'est les deux.
Moi, en bouffe, je suis binaire. Ça se mange ou ça se mange pas. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Bah, les légumes, ça se mange, c'est une bonne nouvelle pour
vous. Mais voilà, regardez, je suis en parfaite santé, en santé. alors, petite remarque, dans votre livre, dans l'avant-propos, vous dites qu'en post-scriptum numéro 2, mon four n'est pas le vôtre. Ouais. Les temps de cuisson sont approximatifs.
Les temps de cuisson des livres de cuisine sont faux. Il faut que ça soit dit une bonne fois pour toutes.
C'est pas un livre de cuisine, en fait, c'est une liste de courses. Voilà, c'est comme si t'achètes un GPS et sur la boîte, il y a marqué les itinéraires sont approximatifs. Vérifiez les panneaux, quand même.
On sent qu'approximativement, vous savez pas trop où se situe la cuisine chez vous. Tom, si je ne me trompe
chez ma mère,
pas trop.
Ouais, chez ça. Ma mère. Ouais, vous savez quoi? Vu quand même que ça a l'air très bon dans votre livre, pour vous faire pardonner, invitez-moi à bouffer. Je ramène le pain et si vous connaissez un ancien président, dites-lui de ramener le dessert. Bonne journée.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Alors non seulement j'ai lu votre livre, pour pas dire dévoré, mais j'ai testé les recettes, enfin deux recettes, parce que le temps du week-end, voilà, et c'est déjà bon surtout,
T'as testé quoi?
J'ai testé la tarte aux asperges, c'est le tout
les
premier,
toast.
Elle l'a fait comment ta cuisinière?
J'ai reçu une recette ou pas? Déjà t'es poli avec ma femme, t'es gentil.
J'embrasse d'ailleurs.
S'il te plaît, oui, pourquoi tu veux qu'on te garde un bout?
De quoi?
Non, c'est extrêmement... C'est extrêmement bon, c'est extrêmement simple. Tout n'est pas végétarien. D'ailleurs,
Moi, je suis pas végétarienne.
Voilà, c'est ça. Vous dites.
C'est juste, j'avais envie de légumes. C'est marrant que vous ayez fait le parallèle avec le Grand Journal parce que c'est vrai que c'est lié. Je voulais faire quelque chose de joli. J'avais besoin de faire quelque chose de joli. Et si vous avez, si vous regardiez un peu plus les légumes, vous verriez qu'ils sont beaux. Ils sont ravissants.
Ils sont beaux, ils sont toutes les couleurs, ils sont remplis de vitamines. D'ailleurs, le point de départ, c'était de croiser une, des personnes qui ne vivaient que de légumes et de leur potager et qui étaient en pleine forme et en pleine santé en disant, mais pourquoi on va chercher compliqué? Pourquoi on fait dans l'industriel? Alors que finalement, en suivant les saisons, en évitant les pesticides et en mangeant bio, eh ben, on se porte mieux.
Ça s'appelle un vieux con, mais c'est vrai. C'est ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est arrêté, les recettes de grand-mère, c'est le point de départ, c'était Denise qui faisait la cantine dans l'école où j'ai grandi, une toute petite école. On allait du CP au CM2, et il y avait madame pour les petits et monsieur pour les grands. Et Denise, à midi, elle arrivait, avec, je me souviendrai toute ma vie, avec son bac en aluminium de hachis parmentés le canard. je m'en souviens encore. Bon, bref. Donc, Denise, je l'ai toujours connue quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans. Et puis, après, je l'ai revue, j'avais 30, et elle avait la même tête. Moi, pas, mais elle, oui. Et je me suis dit, mais c'est pas. Elle était déjà vieille quand je l'ai connue, Denise. Hein. Mais elle avait vraiment la même peau. Je me dis, mais c'est pas possible.
C'est confit.
Je croise un autre vieux du village, mais il a pas changé. Je dis, mais il y a un microclimat ou quoi ici? Je vais rester vivre à Montgaillard. C'est quand même incroyable. Et puis, en réfléchissant et en parlant avec eux, je me suis effectivement rendu compte que cette génération-là, qui était donc déjà âgée quand moi j'avais 7 ans, depuis toujours, ils mangeaient non seulement ce qu'ils cultivaient, mais vraiment local donc, et forcément de saison.
Évidemment.
Et voilà, s'il n'y avait pas de tomates, ils mangeaient pas de tomates.
Et donc, comme par saison, on n'a pas forcément une prolifération de choix, il faut trouver des solutions pour jouer soit en le préparant différemment, soit en le découpant avec des formes différentes,
ouais,
soit en l'associant avec des parfums ou en les mélangeant, et d'un coup arrive cette idée de création et d'un nombre incalculable de recettes en suivant les saisons.
Exactement. Alors,
et c'est beau, il faut quand même dire, parce que moi j'adore...
Les photos sont belles.
Ouais. J'adore les livres de cuisine, je suis une piètre cuisinière, on va pas se mentir, mais alors...
Moi aussi, je suis pas excellente. Hein.
Un livre avec des photos comme ça, et puis ne serait-ce que la pagination, c'est bête, mais quand on va acheter un livre de cuisine, je trouve que ça compte, c'est aéré, on trouve rapidement la liste des ingrédients. Les consignes, c'est pas en 15 étapes.
Non.
Parce que bon, moi, à la première, j'abandonne, en gros. Et puis, on apprend à chaque fois quelque chose sur la valeur nutritionnelle de l'aliment. Par exemple, que l'asperge est très light, mais qu'elle ouvre l'appétit. On apprend pas mal de petites choses comme ça. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien foutu.
Ouais, et puis, la bonne idée aussi, c'est de ne... Faut pas gâcher. C'est-à-dire, vous pensez aussi, est-ce que ça se réchauffe ou pas?
Oui.
Est-ce que ça se mange froid ou pas? Est-ce qu'on peut le garder dans des bocaux ou pas? Non, mais il y a un côté pratique.
Mais c'est vrai, sympa.
Il y a un côté pratique quotidien.
Il y a un côté mère de famille
et qui résonne dans la tête de tout le monde.
Non, mais il faut qu'on gère. Moi, à un moment, j'ai été à la tête. Maintenant, les grands sont partis, mais j'étais à la tête de 4 enfants. Faut gérer, quoi. C'est pas. Faut penser à ce qu'on va acheter. Ouais. Faut gérer son frigo et faut. Il y a des restes. Faut faire quelque chose. Enfin, on peut pas passer notre vie à jeter les trucs.
D'ailleurs,
quoi.
L'une des solutions est de plutôt prévoir les courses de la semaine en sachant les menus que l'on va faire pour économiser.
Alors ça c'est moi je l'ai fait un temps, bon après j'ai laissé tomber parce qu'il faudrait en fait partir faire ses courses avec son livre de cuisine et acheter exactement ce qu'il y a dans les recettes. Et si on le fait, je l'ai fait vraiment pendant quelques mois, c'est incroyable, on divise
le budget.
Hallucinant, mais hallucinant. D'abord vous jetez plus rien, vous achetez deux poireaux parce qu'il faut deux poireaux et puis il faut un demi poireau pour l'autre, donc donc vous achetez les poireaux qu'il vous faut, machin, etc. Vous cuisinez ce que vous avez. Et voilà, c'est
mais
tout.
Ça prend
c'est
beaucoup
terminé.
De temps. Ça prend beaucoup de temps.
C'est, tu fais, tu vois, t'es là. Alors, attends, page 12.
C'est
pénible.
Et puis, il faut anticiper ses envies de.
Ouais.
C'est ça aussi. Quand tu te dis, je vais manger ça après-demain, et puis en fait, le lendemain.
Alors, il y a une autre solution, c'est d'aller, au marché et de voir ce qu'il y a et de le voir, ça donne envie. Après, de l'habitude naîtra forcément la quantité.
Et la cuisine, c'est créatif. Hein.
Et poser la question aussi aux commerçants, c'est en disant. Et à votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire avec ci, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Les tomates sont pas toutes les mêmes aussi, elles ont pas toutes le même goût en fonction des tomates cerises ou des cœurs de bœuf, pour prendre les deux extrêmes, de la plus petite à la plus grande.
Les bons tomates ou pas?
Non, mais
super bon.
C'est pas dépassé.
C'est délicieux.
Arrête. Non, je parle pas de bobo parigot. Je te parle de quand tu vas l'accueillir sur son pied.
Maintenant, c'est la tomate noire de Crimée.
Tu la passes juste sous l'eau, tu la coupes en deux, tu mets un filet d'huile d'olive avec du gros sel dessus, tu meurs ta race.
Laisse tomber, c'est délicieux.
C'est délicieux.
Délicieux.
Ils sont hyper fins.
Quoi?
Je sais pas, dès que tu dis huile d'olive, ils font...
Alors j'ai même essayé avec de l'huile de sésame. C'est encore meilleur. Mais bon.
Oui, alors c'est un goût. Hein.
Ah, ouais, c'est un goût. Ouais. Non, mais le sésame donne
avec
un goût.
Absolument. Absolument.
Moi j'ai fait huile de vidange. Je peux te dire que c'est un goût aussi. Hein. C'est pas dégueu.
Est-ce que alors ce livre arrive à quel moment? C'est-à-dire il était en gestation depuis très longtemps.
Il y a 15 ans que j'y pense. Il y a 15 ans que j'ai cette histoire de... En fait, je voulais faire un programme court avec des légumes. Je voulais des rideaux rouges qui s'ouvrent à la télévision et derrière, il y avait une courgette. Tatin, tu vois. Et on nous racontait. Et je me disais, je vais aller voir le syndicat de la coopérative des fabricants de courgettes et ils vont mettre l'argent, etc. Et on va avoir 17 recettes de courgettes. C'est génial.
Et bon, ça n'a pas marché.
Bah, je n'ai pas été plus avant. Hein. Je me suis resservi un verre à boire et j'ai continué ma route.
Et puis...
15 ans plus tard, je n'avais que ça à faire. Et j'avais vraiment envie, et je me suis dit, tiens, j'y vais. Donc j'ai envoyé un mail à mon éditeur, à Marabout. Voilà, je me suis dit, c'est qui le plus gros? J'ai trouvé que c'était celui-là. J'ai envoyé un mail, je fais, bonjour, je suis Maïtena Birabin, je voudrais faire un livre de recettes de légumes de saison. Est-ce que ça vous intéresse, pour une interrogation? Il m'a répondu oui, et on l'a fait.
Ouais, non, c'est super bien. Je pense, là, il y a la prochaine que je vais tester, ça sera la tatin d'Andive.
D'accord,
elle est belle.
L'idée, parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense en voyant une endive, en disant, tiens, je vais faire une tatin d'endive.
Elle est magnifique,
cette
tarte.
Et en plus, c'est 5 minutes de cuisson et un peu plus de préparation, et c'est fait.
Et hier soir, j'ai fait des petits pois, le tagine de petits pois. Faites-le, parce que c'est la saison des petits pois, on arrive au bout, là, des petits pois. C'est extraordinaire. Ah, la fille qui se kiffe. mais je l'ai payé, je vous assure, c'était délicieux.
Mais vous avez toujours été cordon bleu ou vous avez quand même raté quelques...
Non, je suis pas un cordon bleu du tout. J'adore ça. J'adore faire les courses, j'adore recevoir. J'aime l'idée de la famille française. J'adore ça. Ouais. J'adore.
La cuisine, c'est le partage.
J'adore ça. Voilà. Donc j'ai même une image d'Épinal associée à ça. C'est parfois un peu ridicule, mais je m'en fous, je l'assume. Et je suis pas un cordon bleu. Je suis pas du tout nulle, une brêle en cuisine non plus. Mais la cuisine du quotidien, elle est vraiment... Enfin, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Après, c'est plus on fait, plus on prend un livre, on démarre une recette, puis on dérive, on se dit, tiens, c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Je vais pas mettre ce qu'elle dit, je vais mettre autre chose. Et c'est la liberté, c'est génial. Donc, les trucs, je touche ma bille plus que d'autres, mais...
voilà. C'est quoi la spécialité, alors? La spécialité?
Moi, je fais très très bien, alors c'est pas du tout végétarien, je fais très très bien le poulet à la coco et à la citronnelle. Je fais très bien... je suis forte en soupe. Je suis très balèze en soupe, même si mon mari pense qu'il est meilleur.
Ça crée des tensions dans le couple ou pas?
Oui. On est beaucoup sur la charge, vous avez parlé de ça, je suis sûre.
La charge mentale.
C'est un truc.
C'est un gros dossier en ce moment.
Ouais.
C'est un gros dossier.
J'adore, ça divise la France en deux. Elle est géniale, cette histoire de charge mentale.
Légumes, ils vont vous surprendre. C'est surtout Maïtena qui vous surprend parce que voilà, c'est gay, c'est frais, c'est simple, ça vous donne plein d'idées.
On dirait une pub, c'est gay, c'est frais.
Mais non, mais c'est, joué, non mais c'est simple, ça donne envie. Voilà,
merci beaucoup.
On est ravis.
Et puis, le petit clin d'œil, je sais pas, moi j'ai pensé à Maïté, je me suis dit, elle est drôle jusqu'au bout, elle y va dans les légumes. Il y a une espèce de parallèle aussi qui est
amusant. On est du même coin. Voilà. Maïté, elle est je sais plus exactement d'où, mais on est à 50 km l'une de l'autre.
Il y a Maïtena et Pierre Etchemaïté.
Maïté, c'est un prénom landais, béarnais, ça veut dire Marie-Thérèse. Maïtena, c'est basque, et ça veut dire Marie la plus aimée. Donc vous me rendez mon as, s'il vous plaît. Voilà.
Vous auriez sifflé, Leïla, quand on vous a annoncé la venue de Maïtena ici.
Et oui, quand je pense à vous, je pense à une émission qui vous a donné un rôle de premier plan à tel point que les politiques se pressaient sur votre plateau et c'était des ténors.
La différence entre Dieudonné et Charlie Hebdo, vous pouvez l'expliquer clairement, simplement.
En France, on peut se moquer des religions, de toutes les religions. Ça a toujours été dans l'histoire. On s'est toujours moqué des religions. Ça a été même un principe de liberté. Parce que les religions étaient regardées comme écrasant la vie privée. Donc on a le droit de se moquer. Il n'y a pas dans le droit français l'interdiction du blasphème, qui peut exister dans d'autres pays. Là, on peut se moquer. En revanche, on n'a pas le droit d'appeler à la haine.
Voilà, François Hollande, qui était votre invité dans le supplément. Il faut préciser qu'avant l'existence du supplément, tous les politiques se pressaient sur le plateau du Grand Journal pour faire leur annonce. C'était vraiment le rendez-vous incontournable. Et à partir du moment où le supplément a existé, c'est sur votre plateau, Maïtena, qu'il venait. Là, on vous a entendu poser une question à l'ancien chef de l'État, une question posée au nom des jeunes qui étaient sur le plateau, donc qui avaient cette envie aussi de transmission. Je me demande comment est-ce qu'on aborde un invité comme François Hollande, alors qu'il était aux responsabilités à ce moment-là. Comment est-ce que vous l'avez abordé dans votre questionnement? Et surtout, est-ce que, à ce moment-là précis, l'Élysée vous laisse complètement libre.
Alors, la liberté, elle était absolument totale. Ils ne savaient absolument pas... On avait défini ensemble les thématiques. On les avait informés sur les thématiques, évidemment, pour qu'ils sachent qu'on allait parler du chef des armées, qu'on allait parler du chômage, qu'on allait parler du FN, qu'on allait parler de la jeunesse. Ça, ils le savaient.
C'est la liste des courses, quoi.
Ouais. Et comment on aborde une interview du président de la République qu'on doit faire, qui doit durer 52 minutes toute seule, eh bien, il n'y a pas beaucoup de solutions. En bossant. J'ai jamais bossé comme ça de ma vie. J'ai bossé comme une malade.
Ça se prépare combien de temps à l'avance, un truc comme ça?
J'ai bossé le temps que j'ai su, entre le moment où ça s'est fait, un mois et demi. J'ai bossé nuit et jour comme une malade, parce que je devais tout savoir sur le chômage, je devais comprendre ce que c'était que le chômage, vraiment, qui le calculait, comment il montait, comment il descendait. Moi, j'y vais pas si je suis pas au courant, donc j'ai bossé comme un chien. J'ai bossé sur Barkhane, j'ai bossé sur le Mali, j'ai bossé sur toutes les opérations extérieures de la France, j'ai bossé sur la montée du FN ces 30 dernières années, j'ai bossé sur le
bosser,
PS.
Ça veut dire seul avec des livres,
on avait réfléchi avec Laurent Bon qui produisait l'émission aux thématiques, et ensuite à moi de faire mon beurre. Je travaillais avec Émilie qui était mon assistante, je lui disais cherche ça, ça, ça et ça, elle me donnait des dossiers, je lisais. Je prenais mon stabilo, enfin voilà comme on bosse tous quoi, je stabilo bossais, je me disais ça pose telle question, ça c'est l'URSSAF, mais l'URSSAF c'est quoi, je sais pas ce que c'est l'URSSAF, il faut que je comprenne et tout, donc j'allais chercher.
C'est
j'ai
fin.
Bossé, mais ouais. J'ai bossé, mais quand il est arrivé, attends, je veux dire, j'étais béton, quoi. J'ai fait, allez, viens, alors, qu'est-ce qu'on fait
le AK, quoi.
Mais c'était génial.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Le groupe au complet vient en direct dans la bande originale pour une fontaine de lait, Camille et son groupe dans la bande originale.
Da 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 da
France Inter, la bande originale, le best-of.
Voici l'humeur de Nora. Non. Ah oui, si.
Eh Nora, vas-y, là, t'es payée. Merci, oui.
Du coup, rien à voir avec le film, hein, tant qu'à faire. Alors, hier, je suis allée bruncher chez des amis et sans vouloir défendre quand même la méchante éditrice du film, je dois avouer que les gens heureux sont un peu chiants, en fait. Donc, je me suis retrouvée chez ma copine Marion et sa petite famille parfaite, là. Alors, bon, une famille parfaite en 2017, c'est quoi? Bah, c'est pas hyper différent de nous tous, hein, c'est pas fou. C'est juste des mini détails qui font que c'est mieux que toi et que ça peut se poster sur Instagram à tout moment. Donc, ça a commencé avec leur invitation dimanche à un brunch. Alors, pas un déjeuner, hein, un brunch, non, parce qu'un déjeuner, c'est pas assez cool. Alors, moi, le brunch, très bien. Franchement, j'ai rien contre, au contraire. Par contre, arrêtons 2 minutes. Avec le brunch. C'est juste un déjeuner où tu bouffes le dessert avant le plat et où le plat est principalement constitué d'œufs, mais ça reste un déjeuner. Comme le brunch était un peu plus tôt que le déj, évidemment, je me suis réveillée à la bourre. Résultat, j'ai même pas pu faire un petit effort vestimentaire. J'ai renfilé mon vieux sweatshirt qui puait la clope froide avec lequel j'avais fumé une cartouche de clope la veille. Et alors, autant chez moi, quand je l'ai senti, bon, bah, il sentait un peu la clope, mais franchement, si tu fous pas le nez dedans, ça passe. Autant chez eux, non, mais je veux pas parce qu'ils sont de la gueule de l'effort vestimentaire. Autant chez eux, je vous assure, l'appart était tellement aéré, l'air tellement frais, les petites fleurs tellement fraîchement coupées, putain, j'avais l'impression d'avoir ramené un cendrier dans mon sac à main, quoi. Donc Marion, qui se rend pas compte que c'est moi qui pue, parce qu'évidemment, elle est hyper gentille, sort à son mari, Jonathan, t'as fumé hier soir? Déconne pas, ça pue la clope. Ah, s'il te plaît, c'est insupportable. Excuse-nous, Nora, ça pue, c'est immonde, je suis désolée. Et là, t'es à la fois soulagée et un peu humiliée. C'est un peu comme quand à l'école primaire, tout le monde dit que ça pue, mais personne sait que c'est toi qui as pété. Donc, on discute toutes les deux pendant que son mec cuisine, parce qu'évidemment, c'est Jonathan qui cuisine. Ah, il adore ça. Cuisiner tous les soirs, il rentre du boulot, il m'a préparé mon petit apéro avec ma petite tartine d'avocat et mon petit verre de vin rouge. Oui, parce que il faut savoir que les gens chiants, pardon, les gens heureux ne s'expriment que comme s'ils étaient dans la page Une journée avec du magazine Elle. Je me réveille naturellement par la lumière du jour et je lis Proust en buvant du thé noir. Enfin, moi, je t'ai rien demandé, surtout dans toute la ferme. Bon, bref. On passe à table et genre même leur table est intimidante. Tu sais, c'est la table, t'as l'impression de la déranger quand t'es dessus, t'oses pas mettre tes mains, t'as peur de laisser une empreinte digitale, donc tu mets tes mains, t'enlèves tes mains, tu mets tes mains, t'enlèves tes mains. À un moment, moi, je me dis, non, mais ça va pas ou quoi, Nora, tu vas pas être intimidée par cette pauvre table, c'est quoi ton problème? Et en fait, je me rends compte que c'est la table que j'ai vue sur tous les sites de déco, c'est la table que tout le monde a, là, des designers de je sais pas quoi. Et moi, j'ai la même, mais version imitation suédoise à 39€ de chez Ikea, enfin, tu vois, ça va. Bref, les plats de Jonathan arrivent, donc moi je me dis, avec les deux là, qui sont hyper dans leur délire, bouffe hyper saine, ça va être immangeable. Eh ben non, raté, ça a l'air trop bon. Donc toi, normalement, quand t'essayes de manger sain, ça ressemble à rien, t'as juste une pauvre barquette de tomates cerises savéoles qui traîne sur la table. Eh ben non, eux, ils arrivent à te faire rêver avec une betterave. Jonathan fait un carpaccio de betterave à la brousse, c'est une tuerie. Non, attends, tellement agaçante. Et toi, tout, du coup, ça t'agace, donc t'en rajoutes, t'es là, bah ça doit être pour se faire pardonner des clopes qui fument en cachette, hein, Jonathan, c'est pas bien de fumer. Bon, bref. Là, leur fils Lucas débarque, et alors le fils, je sais pas comment vous dire, c'est pas normal d'être aussi beau en fait. Je sais pas, à cet âge-là, t'es supposé avoir de la bave près de la bouche ou du feutre ou du Nesquik ou j'en sais rien, des croûtes. Le mec a rien, il est propre, il est beau, il a 5 ans, il est déjà égéri d'une marque de vêtements, c'est normal ça. Alors moi, les enfants mannequins, je peux vous dire, ça m'impressionne pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, je peux pas m'empêcher de juger, je me dis, eh bah bravo, c'est sain, les parents qui envoient leurs enfants à des castings alors qu'ils ont rien demandé, c'est bien de leur foutre la pression et de leur faire croire que le physique fait tout. Et là, ils te disent quoi? L'histoire est hyper marrante, on s'est fait repérer au Burger King par un directeur de casting. Non, mais attends. Et là, double information. Donc, un, ils ont rien demandé, donc hyper agaçant. C'est un peu comme ces gens qui disent le cinéma, moi j'ai pas voulu, j'ai pas choisi. J'accompagnais une copine et puis hein, c'est moi qu'on a choisi.
C'est à peu près ce que je viens de dire. D'ailleurs.
Non.
On embrasse Mélanie Laurent.
On peut l'embrasser.
Non mais tous les meilleurs, tous ils disent j'ai pas choisi. T'es là, bah écoute.
Moi j'ai choisi.
Ouais, merci.
Tu viens de dire tous les meilleurs.
Bon, j'ai mon.
Moi j'écoute la suite de la chronique.
Et deux, merci. Et deux, ils bouffent au Burger King. Genre ils mangent sain, ils sont beaux et parfois ils bouffent au Burger King. C'est quand même hyper énervant. Non, parce que les gens parfaits, tu te consoles en te disant, bah ouais, elle est bien foutue, sauf qu'elle doit se faire chier à faire du sport tous les jours et elle doit rien bouffer. Tu sais, c'est comme ça qu'on survit aux gens parfaits, en se disant qu'ils profitent pas des trucs qui nous rendent imparfaits. Sauf que là, le mécanisme marche même pas, c'est quand même dingue, mais que le gens parfait nous laisse la merde, c'est à nous que ça revient à la merde. Bon, bref. À la fin du repas, j'ai quand même pu faire bonne figure puisque j'avais apporté un super dessert. Je me suis mise à parler comme elle. J'ai apporté des macarons d'une pâtisserie. Comment te dire, une tuerie, en fait. Sauf qu'évidemment, j'avais oublié que c'était un brunch et qu'on avait commencé le repas avec du sucré. Du coup, on a mis mon dessert au frigo et j'ai demandé une clope à Guillaume.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Boulébile 2, Mathilde Seigné, Franck Dubosc, avec Charlie Langendry, Jean-François Kéré, Nora Mzaoui. Il y a la petite fille aussi, à propos des géris de pub, elle est ravissante.
Ravissant,
comme
oui.
Celle qui fait craquer justement tous les enfants de l'école dans ce Boulébile 2. Et en fait, c'est Nora, je découvre avec ta chronique que tu es bien le personnage de ce film, c'est-à-dire la méchante Cruella, aigrie du bonheur des autres.
Non mais les gens parfois sont agaçants.
Mais oui, parfois. Pas tout le temps. C'est quoi cette odeur de club qu'il y a dans ce studio? Voici la bande originale de Franck Dubosc et de Mathilde Seigné. On vous a demandé ce que vous écoutiez dans des années qui pouvaient être clés comme ça dans votre carrière. On va commencer en 1991, si ma vue est bonne. Mathilde, écoutez.
Pourtant que la montagne est belle.
Tu t'amusais à cette époque?
Communiste. J'étais communiste à l'époque.
En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Jean Ferrat s'est tué.
Jean Ferrat la montagne. Oui, c'est vrai, c'est un peu surprenant. Je m'attendais à du Johnny de votre part.
Non, parce que j'étais très. Très intellectuelle à 14-15 ans et j'adorais Brel. Les chansons à texte.
Merci.
J'écoutais énormément Ferrat, Lama, Brel, Brassens. Marrant, hein, on n'imagine pas. J'ai aimé la variété plus tard.
D'accord. Et à ce moment-là, vous étiez. Vous avez joué en 91 dans L'Étourdi de Molière. Vous l'êtes toujours. Voilà. Mise en scène par votre tante, Françoise, qui a été aussi un peu votre prof. Il n'y avait pas eu que Galabru.
Oui, metteur en scène, pas prof.
Elle vous a jamais enseigné?
Non. D'accord. Elle m'a mis en scène dans L'Étourdi de Molière et dans une pièce de Françoise Dorin avec Jean Pia. Voilà.
D'accord. Et quels souvenirs vous en avez gardé des conseils qu'elle vous donnait au théâtre?
C'était super. Elle avait un sens de ce métier extraordinaire. Elle disait que des choses comme Galabru, très très intelligente. Elle avait un sacré caractère.
Vous avez été recalé plusieurs fois au conservatoire.
Oui.
Et au point d'en être. Tout à l'heure, vous disiez.
Enfin, plusieurs fois, c'est dur, Nagui.
Deux fois, pardon.
Ouais, une fois, je crois. Enfin bon, on dit deux fois, c'est mieux.
Est-ce que vous connaissez bien votre vie, Mathilde?
Non, vous avez raison, j'ai mal lu. Vous avez été recalé au deuxième tour du conservatoire.
Ouais, j'ai eu le premier tour et pas le deuxième, mais c'était pas grave, mais voilà.
Mais alors, pour quelqu'un qui ne veut pas être comédienne, vous aviez quand même fait le cursus traditionnel, c'est-à-dire conservatoire.
Bah, ça, c'était mon côté familial.
On parlait que théâtre à la maison?
Que théâtre, et puis mon grand-père, c'était normal de passer le conservatoire. Ils étaient doyens et sociétaires de la Comédie Française. La petite fille devait faire le cursus normal, donc comme dit Franck, je suis plus professionnelle que j'en ai l'air, donc je passais mes examens, mais j'avais été recalée parce qu'il y avait c'était très politique à l'époque, le conservatoire, et il y avait une comédienne dont je tairai le nom, et qui aimait pas du tout ma tante, et qui a dit, ah non, on veut pas de la petite fille saignée dans ce...
D'accord, elle s'appelait comment ?
Elle s'appelait.
Dans ces années.
J'ai plus rien maintenant. Hein. Je tiens, j'en crève, mais je tiens.
Dans c'est pas Louane.
Louane, voilà, Louane.
Elle était pas née.
Elle était pas née, là. Bon, ben, née, là.
Dans ces années 93-94, Franck Dubosc écoutait Billy Paul. Vous avez dit en boîte, non?
Non, pas du tout. C'était la. Je faisais des stand-up au Café du Trésor avec
Guillaume Canet,
Arnaud Lemort, Philippe Lefebvre. Et c'est la musique qu'avait il y avait un DJ là-bas, sûrement, c'était un café, et il mettait cette musique. Et donc, pour moi, à chaque fois que j'entendais cette musique, ça veut dire, attention, ce soir, il y a stand-up. Alain Attal, qui était le propriétaire qui est maintenant producteur de tous les films de Guillaume, montait sur scène, prenait un micro et disait sur cette musique, ce soir c'est stand-up, il est dans le local poubelle le plus connu de Paris et on attendait dans le local poubelle la rentrée. Donc cette musique à chaque fois voulait dire on va travailler. Et pour la petite histoire, le DJ de sa boîte Billy Paul, la chanson n'était pas encore n'explosait pas en France. Elle était connue par Elton John mais pas sur cette version là. Et un DJ d'une boîte à la mode à l'époque qui s'appelait Niels à Paris entendu cette chanson.
Il s'appelait Jacques, ce disque jockey.
Je ne connaissais pas. Ah, il a entendu cette chanson au Trésor lors des. Et puis il a commencé à la mettre dans cette boîte de nuit à la mode et la chanson tout à coup a explosé.
Alors tu veux que je finisse la petite histoire parce que moi j'étais pas allé voir en stand-up au Trésor, mais dans cette boîte, oui, évidemment.
Tu te souviens que c'est sorti de là-bas.
Évidemment. Et Jacques, le DJ, passait cette musique. Je dis, mais c'est un énorme tube, j'adore. 93-94, on démarre Taratata. Je me dis, il faudrait que Billy Paul passe dans Taratata. J'appelle la maison disque après avoir demandé au DJ de me monter le disque. J'appelle la maison disque en disant, je voudrais inviter le chanteur Billy Paul qui fait Your Song pour le faire sur le plateau. Et là, on me dit, bon, on va se renseigner, on vous rappelle. Une semaine après, il me rappelle en me disant, il est mort. Je dis, ah, vous êtes sûr, il est mort? Ouais, il est mort. Je continue, j'en parle au DJ, je dis pareil qu'il est mort. Il fait non, pas du tout, bouge pas, je vais trouver ça. Et à l'époque, on n'était pas très internet et très on va contacter tout le monde. Et on a fini par retrouver Billy Paul. La maison disque était absolument pas au courant. Il est revenu sur le plateau et il a mis le feu en faisant cette version qu'on va écouter un tout petit peu plus. Tiens, ça va faire du bien.
Ça a été un tube énorme.
Énorme.
C'est une chanson d'Elton John.
Paul, qui maintenant malheureusement n'est plus de ce monde, mais en tout cas à l'époque c'était un énorme succès. 94-95, Mathilde, vous débutez au cinéma et là vous écoutez l'idole.
Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?
Johnny.
Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas.
En 94, vous apparaissez pour la première fois à l'écran dans un film de Claude Miller, aux côtés d'Emmanuel, votre sœur, ça s'appelait Le Sourire.
Tout petit rôle. Ouais. J'étais jouer une stripteaseuse dans des baraques de roule-roule là, avec Richard Boringer. Ouais.
Mais c'est la première fois que vous êtes au cinéma.
Ouais. J'étais toute nue, à une scène toute nue. Là, je me range
les
ongles.
On peut retrouver les images.
Non.
Non, mais c'est super. Enfin, c'est étrange que la première scène au cinéma soit immédiatement une scène nue, très courte, on ne fasse que ça. Enfin, c'est sûr, c'est vous qui étiez au théâtre d'une famille de grands comédiens.
Bah non, mais c'était un rôle.
Oui, vous
il y avait quand même des scènes, il y avait des jolies scènes. C'était Claude Miller qui était un metteur en scène extraordinaire. Bon, puis voilà, c'était un petit boulot, quoi.
Alors, le premier grand rôle, c'est quoi? C'était Rosine.
Rosine.
Ça, c'était plus tard, en 95.
Ça, c'était vraiment un beau
film. Le film de Christine Carrière. Ouais. Franck, juste avant d'écouter ce que vous écoutiez en 94-95, je voulais resituer Billy Paul, parce que Billy Paul n'a pas fait que reprendre des chansons d'Elton John. Il avait aussi un énorme tube.
Me and Mrs. Jones. Ah, c'est lui, ça.
Ouais, c'est lui qui a fait ça.
J'ai
énormément
fait ça.
Tu pardon? We got a thing. Tu vas, ah d'accord, et tu veux pas le dire à l'antenne que tu vas la mettre dans ton prochain film, d'accord.
Enfin, même pas mon film.
D'accord, mais pourtant tout est à l'antenne là. Très bien, ça c'était Mia Mrs. Jones.
C'est rouge, Franck, quand c'est rouge.
Quand c'est rouge, tout passe à l'antenne.
Attention.
Céline Dion, c'est ce que vous écoutiez en 94-95.
Je vais chercher ton cœur.
Je suis un grand fan de Céline Dion.
Mais. Ah, mais moi aussi, je l'ai dit, non, c'est pas moi. Alors, la chanson.
Alors, en l'occurrence, c'est Franck qui
a eu une question. On m'a demandé des époques. Je me suis dit, de toute façon, à une époque, il va forcément y avoir Céline Dion parce que j'aime beaucoup. Moi, Céline Dion, je l'avais vue à.
Moi,
j'étais allé voir Patrick Sébastien à l'Olympia et il y avait deux ou trois premières parties. Philippe Laville. Il y avait une petite jeune fille, Céline Dion, en premier. Vous savez, Céline Dion, Philippe Laville, je ne sais plus qui, et Patrick Sébastien en vedette. Et il y avait cette petite jeune fille qui devait avoir 15-16 ans qui a chanté deux, trois chansons. Et tout le monde debout dans la salle. Et là, elle a rechanté 2-3 derrière, devant le rideau, en fait. Elle est revenue. On sentait que les gens la poussaient.
Ouais, c'était un rappel forcé. Ouais,
c'est un rappel forcé. Les gens la poussaient. Et là, c'était fabuleux. Quoi. C'était sublime. Et là, tout à coup, tu vois une fille, tu te dis, mais qui c'est
Vous l'avez déjà rencontré?
Je me suis dit, mais fais-le,
oui.
À l'époque.
Vous étiez dos à la scène. Ah, oui, je comprends.
Tu l'as déjà vu, bien sûr.
Rencontré.
Eh bien, non, jamais.
Ah, oui, si, moi.
René, oui. Il m'a dit, mais viens, faut que tu viennes voir Céline, machin, mais je n'ai jamais rencontré Céline Dion. Non, jamais.
Elle est adorable, quoi.
Et elle est extrêmement naturelle, comme elle est.
Elle est exactement comme elle est. Mais moi, c'est.
Et elle dit tout, elle n'a pas de filtre, j'ai l'impression.
Non.
Un peu comme vous.
Non. Ouais.
Non, c'est vrai, mais quand vous parlez, on a le sentiment que vous n'avez pas de filtre, que vous ne vous dites pas. Ça, il ne faut pas que je le dise, attention, c'est pas bien.
Un petit peu plus attention maintenant.
Pourquoi? Vous avez été choisi par certaines phrases dites?
Oh bah oui, beaucoup, mais non, c'est parce qu'il y a Internet.
Ah oui.
Donc ça on s'est repris.
Je sais que dès qu'on dit déjà ça, rien, même le rien est repris, donc je me dis que le beaucoup, Oh là, je fais attention parce qu'il y a cette machine diabolique. Mais il y a une chanson.
Ça va être repris, ça, Mathilde. Attention, voilà, machine diabolique Internet.
Oh là là, j'ai beaucoup de choses
Internet
à dire.
Internet est une machine diabolique.
Je l'appelle Interpanet, moi.
Hashtag France Inter, Mathilde Seigné.
Non, moi, j'aime encore un soir, la dernière, là. Extraordinaire. Encore un
c'est
soir.
Toi, ah oui.
Encore une heure.
Pendant qu'on tournait Boule et Bill, tu n'arrêtais pas avec cette chanson, je suis devenu fou.
Elle me rend zinzin.
Elle est bonne, hein. La chanson, ouais.
Ah, elle est bonne.
Sauf que là, on est dans les années 80. On est dans les années 95, à ce moment-là.
On ne sait pas encore qu'elle va écrire, qu'elle va chanter.
Exactement. Et vous participez aux annonces d'Elie avec Elie. Vous êtes co-auteur, co-créateur de cette série des petites annonces.
Oui.
Et alors, pourquoi ça s'est arrêté?
Pourquoi ça s'est arrêté?
Pourquoi on l'est pas gardé comme une espèce de rendez-vous comme
parce
ça?
Parce que d'abord, on en a fait 4, 5, 6, 8 volumes, je crois, enfin avec les remixes, les machins, les trucs. Et après, on a chacun travaillé de notre côté aussi pour nos spectacles. On s'est souvent dit si on en refaisait, mais maintenant, c'est plus très possible parce qu'il n'y a plus de vente de DVD, de tout ça. Il faudrait que ce soit pour aider. Ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi tous les animateurs télé, je pense à Cyril, Hanouna, autres, adorent ce truc. Et chaque fois, je leur dis, mais elles existent, prends-les, diffuse-les, t'en prends 3-4, tu les diffuses, c'est tellement en plus à chaque fois...
C'est intemporel, je me rends pas compte si
ça fonctionnerait, mais le produit est là, il n'y a pas besoin d'en refaire.
Mais ça passe quelquefois sur le câble,
de temps en temps, comme ça. Mais puis là, si on en refaisait aujourd'hui, ça va, on a un petit peu vieilli et tout. Et puis au fur et à mesure des DVD, enfin j'ai toujours envie de dire cassettes, parce qu'on a commencé par les cassettes, on finissait par avoir trop de moyens, je trouve, et le petit côté, allez on prend une moustache, on se la colle sur le visage, on fait le con.
Improvisé, route, sans argent.
Presque improvisé sans argent, disparaissait. Et c'était ça qui était vraiment très bon. Même on en avait fait une dernière, on se disait, allez, on y va, on prend les costumes comme ça, on s'amuse. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace.
1999, Mathilde, vous écoutiez Serge Lama.
Je suis malade.
Chanson française.
Je malade.
Da. Comme quand Dalida, sublime. Le soir.
Elle est passée au Nils, celle-là. Jacques, le DJ, il a passé.
Oui, c'était pour qu'on sorte.
quand j'y étais. J'étais bien connue.
En 99, vous avez remporté le prix Romy Schneider. Vous jouez dans Vénus Beauté Institute de Tony Marshall. Vous incarnez également la fille de Catherine Deneuve dans Belle Maman de Gabriel Aguillon. C'est une période faste en termes de rôle, de prix, de reconnaissance.
Ah oui, c'est tout d'un coup, ça a été.
Qu'est-ce qui a été
le déclic ? Il y a eu Rosine. Mais Rosine, beaucoup, parce que Rosine, c'était un film qui n'a pas du tout marché, qui était un film d'auteur, mais absolument magnifique, qui m'a lancé et qui a vraiment. La profession était hallucinée que je fasse ce rôle-là et tout. Donc c'est vrai que Vénus Beauté, je l'ai fait grâce à Rosine. Belle Maman aussi. C'était deux choses très très différentes. Et ouais, c'était tout délirant là, autour de moi. Oh, ils ont déchanté depuis. Mais c'était délirant. J'étais un peu l'espèce de. Comme Béatrice Dalle, quoi. C'est-à-dire la nature qui dit tout ce qu'elle pense. Ça n'existait pas. Tout d'un coup, c'était un truc. J'étais un truc très 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 rare. Voilà.
Donc, vous parlez de vous en disant j'étais un truc. Un truc, c'est-à-dire quoi ça fait bête de foire un tout petit peu. C'est-à-dire, on vous invitait pour éventuellement un dérapage ou
la grande gueule.
Oui, mais parce que maintenant, je me suis assagie et puis les choses sont différentes. Puis ça y est, je fais partie du paysage des meubles, comme on dit. Mais voilà, mais c'était amusant pour eux à l'époque. Et c'est vrai, comme les actrices sont plutôt contrôlées, elles font plutôt très attention. Moi, j'étais un peu. Je me compare à Béatrice Dalle, que j'adore, parce que. C'est une nature comme ça.
Et voilà. Vous avez conscience de ça à cette époque-là ?
Pas vraiment. Hein.
Ouais.
Je ne me rendais pas bien compte qu'il ne fallait pas dire. Moi, je pensais que ce métier, ce milieu, on pouvait tout dire. Au contraire, on n'était plus à l'école. Et en fait, non, c'est assez consensuel. Hein.
Fin des années 90, Franck Dubosc, écoutez.
Ah, voilà, La Rousseau. Oh, c'est génial.
Ouais, tu veux ça. La Rousseau. Même,
hein. Ouais, c'est
titre extraordinairement prémonitoire. La Rousse.
Ah ouais. Non, c'est très prémonitoire. La Rousseau qui chante Tu m'oublieras et là depuis plus rien, c'est triste. Quand même.
Hélas, parce que. Hélas, parce que.
C'est pas Amel Bentel.
Non, c'est La Rousseau. C'est avant Amel Bentel.
Il faut juste préciser une chose, c'est que cette chanson avait été enregistrée par Régine. Ça n'avait pas du tout été un succès. Elle avait été ensuite enregistrée par Gene Manson. Absolument pas de succès. Et c'est la version de La Rousseau qui en a fait un énorme tube en 98.
Moi, je suis très aussi chanson française. Comme ça, une chanson est bonne, je trouve qu'on a envie de la chanter avec elle.
Alors, le séducteur macho, mytho, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme autre qualificatif au personnage que vous incarnez sur scène?
Que j'incarnais à l'imparfait, parce que c'est un peu différent. j'ai gardé ce en fait le personnage que je jouais au début sur scène, c'était issu des stand-up quand on écrivait les ce qu'on faisait au Café du Trésor dont on parlait tout à l'heure avec Guillaume Canet à 10 ans de moins que moi. Lui, il jouait un jeune amoureux, enfin on faisait nos histoires de filles et tout, lui c'était le jeune amoureux, et puis donc c'était naïf et drôle. Et puis quand eux ont arrêté, les copains, Guillaume, Arnaud, tous ont arrêté de faire du stand-up, moi j'ai continué, j'ai repris les textes. Mais comme j'avais 10 ans de plus,
c'était le jeune amoureux,
le jeune amoureux naïf avec le même texte donnait le vieux con loser. Enfin, le vieux con, j'avais 30 ans, mais un peu plus loser et un peu plus dragueur. L'autre c'était l'amoureux et moi ça devenait le dragueur avec le même texte et les mêmes mots en fait. Et voilà, et donc j'ai fait ce personnage et je me suis dit, vaut mieux aller, avant d'avoir un contre-emploi, ayant un emploi, mon emploi, je me suis dit, avec cette tête de faux beau gosse qui m'a... Je me suis dit, je vais jouer là-dedans. Je suis pas un petit gros. Je vais jouer avec ça et je vais jouer. Mais en jouant avec ça, en faisant le séducteur, il faut que je perde. Si je gagne, je suis détestable.
Tous les deux, évidemment.
Mais j'ai quand même été détestable pour certains en perdant.
On vous a vu dans Camping, tous les deux, puisque Camping va arriver ensuite dans les années 2000 et quelques.
Est-ce 2005.
Est-ce qu'il est question ou pas d'un Camping 4 oui ou non? Parce qu'il y a différentes rumeurs. J'aime bien, ils se regardent avec qui il va, qui dit non, qui dit oui. Non,
mais. Bah on se regarde parce que d'abord, s'il y avait un Camping 4, on y serait tous les deux, parce que là, c'était un hasard que Mathilde soit pas dans le 3. Mais personnellement.
Non, on a une idée éventuellement.
Oui,
éventuellement,
mais c'est... d'autres films, un autre film.
De Patrick Chéran, grand-père, c'est ça?
Non, un autre film de vacances.
Un autre film de vacances.
Parce que le réalisateur a dit que qu'il y aurait un Camping 4 avec Patrick Chirac, grand-père.
Non, mais d'abord, ce serait un peu. D'abord, on a joué Patrick Chirac avec des jeunes. Donc, Patrick Chirac, un petit peu vieillissant, voilà, qui se teint un peu les cheveux, qui a le gros bide et tout ça. Maintenant, je pense que si on. Ça va, à un moment donné, faut aussi s'arrêter.
Je crois que c'est bon. C'est bon autant pour toi que pour moi, si je peux me permettre.
D'accord. Pense, mais se retrouver.
Un autre projet ensemble
de films de vacances. Fabien, Anthony Hennette, Mathilde, moi, d'autres choses.
D'un film de vacances, mais un peu ailleurs.
Mais différent. Pas avec les mêmes personnages.
T'as vu, ils ont rien dit sur All Inclusive, qui sera donc ce prochain film de vacances qu'ils vont tourner ensemble.
Parce qu'il n'est pas écrit, Nagui.
Sous la direction.
Il est pour né.
On parle de Boule les Billes 2. Lui, il est bien né. Avec Mathilde Seignier et Franck Dubosc, qui sont nos invités, aux côtés de Nora Mzaoui, qui joue la Cruella, la méchante, dans ce film. On a demandé à Maude Besançon, merci Maude de venir à ce micro. Vous êtes psychologue et docteur en psychologie. Vous avez signé un livre qui s'appelle La créativité de l'enfant. Créativité qui se définit comme la capacité d'un enfant à produire quelque chose. Mais que ce soit un dessin, un poème, un objet aussi.
Un objet.
Quelle que soit la création, passe partout. Idée,
oui, passe partout, dans tous les domaines.
Mais mon enfant fait des tables de luxe. Il a 4 ans.
Génial.
Et ça s'observe à partir de quel âge, la créativité chez un enfant? À partir de deux mois
En même temps, on prend Mozart et très rapidement, on peut dire que là, on est dans de la créativité imminente et très tôt, en fait, on a vu sa créativité. Après, on a la créativité imminente et puis on a la créativité de tous les jours. La créativité de tous les jours, c'est peut-être un enfant qui va pour la première fois réussir à se mettre debout. Lui, il crée à sa...
À sa mesure,
à sa mesure.
Je reconnais les miens, parce que sur Mozart, j'étais un peu largué.
Alors, on vous a demandé de venir, parce que c'est vrai que l'un des points clés dans Boule et Billes 2, c'est la créativité du dessinateur, alors qui n'est pas un enfant, en l'occurrence, qui est le papa de l'enfant. Et le bonheur est un frein à sa créativité. Est-ce que c'est crédible, ça, que le bonheur soit un frein à la créativité?
Alors, c'est crédible selon certaines théories. On a la théorie psychanalytique déjà, qui n'est pas vraiment mon domaine, mais voilà, où Freud va vraiment dire que justement, c'est quand on a quelque chose de très négatif qu'on va sublimer cette partie et donc pouvoir créer. C'est également repris de tout ce qui est même précédent avec les Grecs, Aristote, qui voyait effectivement les poètes maudits, les peintres maudits, enfin voilà. Et puis, on a tout un courant de la psychologie aujourd'hui, qui est la psychologie positive, qui va considérer au contraire que ce n'est pas du tout le négatif, mais plutôt le positif qui va permettre d'être créatif.
Pourtant, en matière de chansons, les plus belles chansons...
Je pense pas que Ne me quitte pas ait été écrit dans un moment de délire.
c'est non seulement un moment de tristesse, mais il se fait plaquer par sa femme, qui le trompe, qui s'en va, et la création Ne me quitte pas, elle est dans un moment de spleen,
on est d'accord. Et pourtant, alors les recherches vraiment en laboratoire qui s'intéressent justement à l'impact des émotions vont montrer que les émotions positives ont un impact positif sur la recherche d'idées. puisque quand on est dans ces émotions positives, on est ouvert à tout ce qui se passe autour de nous, et donc on va aller chercher les idées ailleurs, alors que justement au moment des émotions négatives, elles vont favoriser justement ce qu'on appelle la pensée intégrative convergente pour créer justement une œuvre bien complète.
Et comment on fait ça en laboratoire?
Comment on fait ça en laboratoire?
En laboratoire, j'ai du mal à imaginer.
Alors en laboratoire, on va induire des émotions avec des stimuli, soit auditifs justement, ou également visuels avec des photos.
Mais est-ce que c'est fiable?
C'est un laboratoire.
Oui, c'est pas la vie.
Alors, on est d'accord que.
Franck Dubos.
À mon petit exemple d'auteur, puisque j'écris mes textes, je pense, enfin, si je traduis, enfin, c'est clair ce que vous dites, mais c'est que par exemple, moi, j'ai écrit un spectacle qui s'appelait Romantique après une rupture. Mais alors, j'ai eu cette rupture, je me souviens, m'être dit même avant, tiens, là, je sais plus quoi écrire, il me faudrait une bonne rupture. Et le hasard de la vie a fait, alors est-ce que je l'ai provoqué, j'en sais rien, il y a eu une rupture. Et je pense que le moment, donc il y a eu ce moment triste où j'ai pleuré, où j'écoutais des musiques tristes et tout ça, qui sont devenues finalement les musiques de... Et je pense que le moment où j'ai commencé à mettre des mots sur le papier, c'est le moment où tout à coup j'ai revu le soleil arriver et je me suis servi de ce moment triste.
Donc vous êtes soigné, vous êtes soigné par l'écriture.
Peut-être que c'est ça, c'est-à-dire tout à coup le j'allais mieux et je me suis servi de tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour écrire.
Mais parce qu'on dit que quoi, que le bonheur c'est chiant, c'est ça, les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Non mais je pense qu'on aime avoir mal.
Parce que c'est non mais c'est sur vous les billes 2, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont heureux donc il y a rien à raconter.
C'est les gens ils disent toujours c'est bien, les gens sont tristes, ils ont envie de rire en ce moment, mais je crois quand on a une rupture justement on écoute Aznavour que la compagnie créole. Non mais c'est vrai.
Quand ça va pas,
ça devrait nous booster un peu.
Mais on aime avoir mal.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
À voir, à vous régaler, à voir sur scène Camille. En attendant, elle nous offre une reprise qu'elle a faite spécialement pour la bande originale, reprise d'un titre de Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. C'est Camille.
Paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in the tree museum. And they charge the people $1.50 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The paved paradise, put up a parking lot.
Ooh, shoo-do-wop-wop. Ooh, shoo-do-wop-wop.
Hey, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples and I'm eating me the birds and the bees, please. Screen door slam and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The paved paradise put up a parking lot. The paved paradise put up a parking lot. The paved paradise put up a parking lot.
Le best-of sur France Inter.
Confiance et familiale ne sont pas vraiment les deux adjectifs qui collent à
Daniel. Je me disais, il a pas encore parlé, celui-là.
Ah, le vice est à table.
Ouais.
Enchanté, moi c'est Daniel. En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire à France Inter. Une saga quotidienne avec le surpuissant Patrick Cohen, le névrosé Augustin Trappetard, Nagui, le magnifique, mais aussi Laurence, la directrice, accro, choc à pic, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin,
En apparence.
Aujourd'hui, à l'honneur de nos invités, Mathilde et Franck, toute la grille de France Inter rend hommage à Boule et Bill. Laurence, la directrice, fait son petit topo. Aujourd'hui, les enfants, c'est une spéciale, très spéciale. Les amis, je vous demande de tous respecter la thématique autour du chien. Je sais que c'est un thème à la con, que vous auriez préféré avoir le thème de France Culture pour leur spécial Jackie et Michel, mais c'est comme ça. On peut pas toujours avoir ce qu'on veut. C'est parti pour la spéciale chien.
Patrick Cohen, le 7-9 de France Inter.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-9. Ce matin, je reçois Rex, Rex berger allemand, chien policier qui fait les très bonnes audiences de France 3. Bonjour Rex. Rex, on est en pleine campagne électorale. Si vous étiez français, vous vous sentiriez proche de quel candidat? Pourquoi Marine Le Pen? C'est par conviction politique? Ah, physiquement, elle vous rappelle Greta, votre cousine d'Obermann. Merci de votre franchise, Rex. Clic-clac. Un selfie? Pas de problème. Et puis, c'est au tour du très culturel Augustin Trapenard de s'attaquer au thème du kleps.
Boomerang sur France Inter.
Dans son émission culte Boomerang, l'émission, même que si t'en veux plus, elle revient, Augustin reçoit Milou. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'Augustin demande à Milou si l'attirance sexuelle de Tintin pour le capitaine Haddock n'est pas liée au statut de marin du capitaine, ce qui implique une relation non engageante à cause de la répétition des voyages au long cours. Milou voit rouge, il mord l'animateur, lui pisse dessus et quitte le studio en aboyant comme un chien. Heureusement, la thématique reprend sa bonne humeur quand arrive 11h et que Nagui rentre en scène. Aïe. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui, notre invité est Yuki de Gottener. Faites du bruit pour le Yuki!
Il était où?
Tout se passe hyper bien. Le Yuki est ravi. À la pause, il se frotte à la jambe de Leila. Nagui lui donne régulièrement des croquettes. C'est un succès.
À Yuki.
À la fin de l'émission, Nagui l'invite même à participer à Taratata pour reprendre en duo la chanson Bibi Fock avec Mirza, le chien du regretté Nino Ferrer. Puis arrive l'enregistrement de Partons en live, l'émission d'André Manoukian, une émission qui au final ne se fera pas. À l'origine, André devait interviewer la belle clochard, mais c'était trop d'émotion pour l'animateur venu des montagnes d'Arménie. En effet, quand les deux invités sont rentrés dans le studio, de forts souvenirs sont remontés à la surface pour Dédé. Son statut de clodo, les deux premières années de sa vie, quand il est arrivé en Pagne, à Paris. Et la démarche de la belle qui lui rappelait trop cruellement sa deuxième épouse, Jennifer, une femelle caniche abricot. Et puis la thématique chien célèbre s'est poursuivie pour finalement s'achever dans l'émission de Laure Adler, Laure Bleue. Laure y invitait le cadavre de Lassie, chien fidèle. Lassie qui n'a jamais répondu aux questions de Laure, mais l'émotion était bien présente dans le studio. Bref, aujourd'hui encore à Radio France, ça a été grandiose. Un travail extraordinaire de la part de toutes les équipes en ce 3 avril, jour de fête, puisque c'est la Saint-Richard. Bonne fête, Richard. Et pourtant, tout ça, les amis, c'est juste une journée ordinaire à France Inter.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Vous avez des excuses à présenter, Nagui.
Des excuses déjà pour Nora Hamzaoui, à qui je dois la vérité, en répétant ce que Mathilde et Franck m'ont confié à la pause, qu'ils avaient préféré la prestation promo que la chronique. Et franchement, c'est pas juste, les gars. Désolé pour les fans de Nora, cette fois, qui ont eu la confirmation qu'elle était une femme aigrie, au pull douteux, qui sent la clope par ailleurs, et à l'enfance pétomane. Que du glamour. Désolé enfin pour Jérôme Commandeur, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez été appelé Guillaume aujourd'hui. Il doit être fatigué, Jean-Michel Dubosc.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Dans la bande originale, voici Dragums avec Wild Graces.
Call me on. Take me out of modern confusion. Underneath the sky, onto stony ground, wild grasses cushion every step, wild grasses. Wild grasses
C'était Diagrams et c'est la fin de cette bande originale pour aujourd'hui, mais on sera là demain avec toute la bande.